Bible de l'humanité, deuxième partie, chapitre 2, Syrie, Phrygie, énervation. Dans la monotonie funéraire de l'Égypte, on sent que son âme sevrée, retrécie 100 siècles durant, fut étouffée dans l'arbre de douleur. Le contraste est étrange lorsque l'on sort de là pour tomber dans le monde trouble qu'elle a tout autour d'elle. Une mer, une tempête de sable, comme au désert libyque, au désert de Suez, semble voler devant les yeux. Chez les Noirs du Haut-Nil, aux campements arabes, au monde divisé de Syrie, même en ces grands empires de la dissolue Babylone, de la barbare Carthage, l'esprit semble égaré. Vous vous sentez dans le chaos. Les mythes lumineux en Grèce, en Égypte harmonique, qui gardent un grand air de sagesse même en pleine imagination, ici semblent tourbillonner comme au vent du désert. On n'a pas assez dit combien ce sud-ouest, entre Afrique et Asie, où tout est fragmentaire, scindé, inorganique, dans ces cultes bizarres, a l'air d'un véritable songe. Dans la vivante écume de l'eau visqueuse et poissonneuse qui fermente, bouillonne dans la mer pullulante, la Syrie a senti son dieu. Comme l'Euphrate, elle eut pour idéal le poisson et le poisson femme. Certes, si l'infini de l'amour inférieur, de la fécondation, se montre quelque part, c'est dans le poisson à coup sûr. Il comblerait la mer, il la noie à la lettre en certain temps, la blanchit, l'illumine d'une autre mer de lait grasse, épaisse et phosphorescente. Voilà la Vénus de Syrie, c'est Derceto, c'est Astarté ou Astaroth, mâle et femelle, le songe de la génération. L'Hébreu, aux confins du désert, avec sa maigre vie, rêve un peuple nombreux comme le sable tourbillonnant. Le Phénicien, aux grasses villes des ports malodorants, rêve l'infini de la marée, un peuple d'amphibies qui grouille et qui regorge de Sidon à Carthage et jusqu'à l'océan. Dans l'intérieur des terres, pour l'amoureuse syrienne, la jante recoulante, lascive, des colombes innombrables, peuple sale et charmant, fut la poésie. Leurs caresses acharnées, leurs amours, fort irrégulières, quoi qu'on en ait dit, furent le spectacle et la leçon. Et leur nid consacré, multipliant toujours, purent blanchir à leur aise le sombre cyprès d'Astarté. Les Phéniciens, pour avoir bon voyage, amenaient Astarté sur leur vaisseau. Ils travaillaient pour elle. Leur grand commerce était d'enlever des colombes, femmes, filles ou jolis enfants pour les sérails d'Asie. Leur piété était, dans tous les comptoirs qu'ils fondaient, de faire pour Astarté un hôtel, un couvent d'immondes tourterelles qui rançonnaient les étrangers. Chypre, Cythère furent souillées de ce culte, au point que les filles du lieu subissaient toutes avant le mariage la flétrissure sacrée. Elles étaient heureuses d'être quittes à ce prix, car cette Astaroth d'Astarté, la Vénus des pirates, ne se distinguait pas toujours de l'autre dieu des Phéniciens qu'ils appelaient le roi Moloch, et qui aimait tant les enfants qu'il en volait partout. Ce roi, dieu de sang, dieu de feu, de la guerre, de la mort, avait un plaisir exécrable à presser sur son sein de fer rougi à blanc des chairs vivantes. Si l'enfant ne brûlait, il était mutilé. Le fer en faisait une femme. C'est Moloch, ces cruels marchands, maîtres et sultans partout, avec leurs navires combles de la pauvre denrée humaine, avec les caravanes qui l'amenaient en longs troupeaux, n'avait que faire des Syriennes. Celles-ci étaient des veuves. La nuit, sur la haute terrasse de la maison ou la muraille sèche qui soutient quelques pieds de vigne, elles pleuraient, rêvaient, contaient leur douleur à la lune, l'équivoque Astarté. Du midi et de la mer morte, soufflait la sulfureuse haleine des villes qui dorment englouties. Elle rêvait, et jamais il n'y eut de si puissante rêveuse. La parthénogenèse, la force du désir qui sans mâle est féconde, éclata dans la Syrienne en deux enfants qu'elle fit seule. L'un est le Messie femme qui a délivré Babylone, serve jusque-là de Ninive, la grande Sémiramis, née poisson, devenue colombe, qui épouse toute la terre, finit par épouser son fils. L'autre est un dieu de deuil, le Seigneur, Adonai ou Adonis. Il est né de l'inceste, et son culte mêlé de pleurs, d'amour, tient de l'inceste encore. La grande légende syrienne, l'inceste en ses trois formes, Sémiramis, Lot et Mira, aboutit à cette création féminine d'immense importance, Adonis, mort, ressuscité, culte sensuel et pleureur, très fatal, par lequel le monde descendit misérablement sur la pente de l'énervation. De tout temps, les enterrements n'étaient l'occasion des plus tristes folies, Lévitique et Deutéronome. Les pleureurs et pleureuses, jouant le désespoir, s'aveuglant de vannes et de cris, déliraient très réellement, finissaient par agir comme s'ils eussent été morts eux-mêmes, taillant leur chair, la souillant outrageusement. Lot, qui a vu le monde s'abîmer dans les flammes, qui a perdu sa ville, perdu sa femme, croit que tout est fini et toute loi. Il est mort, rien ne lui importe. On peut le tromper tant qu'on veut. Le Lot de Byblos est le deuil. Gengra ou Siniras, la harpe funéraire, dans ce mauvais rêve, est un roi, trop aimé de sa fille. Cette fille est Myrra, la myrrhe qu'on brûle aux funérailles. Harpe et myrrhe, ces êtres lugubres, ont tant d'affinités qu'ils se mêlent pendant 12 nuits. Enfin, Gengra s'indigne. Elle non, d'inconsolable amour, elle pleure et pleurera sous la forme de l'arbre Amir. Arbre puni, maudit, nullement, la Syrienne en fait l'être exquis, parfumé, qui charmera la mort. Une de ses belles larmes odorantes est Adonis, un enfant si joli que pour elle, dès lors, il n'est plus d'autre dieu. Elle l'appelle mon Seigneur. Adonai, mon Baal, propriétaire, époux. Elle-même, elle rêve qu'elle est sa Baaltis, son Astarté, qui doit le posséder. Astarté aux deux sexes, Adonis, femme d'Adonis. Et pour folie dernière, son nom d'amour est Salambo, la folle flûte, lugubre et furieuse, dont on joue aux enterrements. Mais en le faisant son Baal, elle a cruellement irrité Baal Moloch, le roi du feu, roi de la guerre et de la mort, Mars Mors. Ce démon prend la forme de la bête démoniaque. Il entre en un pourceau, ou disons mieux, un sanglier sauvage, qui blesse au sexe même le bel enfant, le tue, ou tue en lui l'amour. Qui douterait de tout cela quand son sang coule encore? À Byblos, au moment, décrit par le Cantique des Cantiques, où la saison des pluies a cessé, où le sang fiévreux court dans l'agitation d'un printemps de Syrie, par une rencontre singulière, le torrent de Byblos se trouble aussi, rougit. C'est le sang d'Adonis. Les pleurs sont un secours. Ces pleureuses en étaient insatiables. Tout en retentissait, on pleurait à Byblos devant la mer, au souffle chaud d'Afrique dans les ivresses du printemps. Dans la Syrie, à la fin de septembre, lorsque la vigne avait pleuré l'année, c'était le dernier mois, 7 jours durant jusqu'au 1er octobre, sur la cuve fumante, on délirait, on s'aveuglait de larmes. En certains lieux, on ne pouvait attendre l'automne, et pendant la moisson, sous le trait acéré du soleil à Denise, ses amantes insensées, dans sa victoire suprême, le fêtaient à force de pleurs. C'était une furie d'enterrement. Elles se figuraient qu'elles avaient perdu, tout se brouillait en elles, et leurs amants et leurs enfants. On faisait tellement qu'ellement une poupée figurant un jeune garçon très féminin. Sur ce pauvre poupon, on accomplissait avec des cris navrants les rites des funérailles. Le corps était lavé, on l'ouvrait, l'embaumait, exposé sur un catafalque, on le contemplait longuement, surtout en la cruelle blessure ouverte à son flanc délicat. Toutes assises par terre en cercle, échevelées avec des litanies, des silences et de gros soupirs. De temps en temps, l'une disait « Hélas, mon doux Seigneur, où est ta seigneurie maintenant ?» On suffoquait. Au bout de 7 grands jours, il fallait bien finir, il fallait bien se séparer, mettre en terre cet infortuné. Et quoi, ne plus le voir ? Sa Baltis, son Astarté, l'éperdu Salambo, le cherchait vainement. Était-il mort ? On avait soin d'arranger un petit miracle. Dans les pots préparés, on mettait de ces plantes que la chaleur fait éclore subitement, bien exposées au haut de la maison, sur la terrasse où l'on couche en Syrie. C'était les jardins d'Adonis. Au jour 7e exactement, on allait voir. Il avait éclaté, la plante avait fleuri. De terrasse en terrasse, des cris d'amour volaient. Bonheur, il est ressuscité. Partout, l'Astarté délirante ressaisissait son jeune amant, vivant, entier, non mutilé. On rassurait le monde, il n'avait rien perdu. On arborait le signe de la fécondité comme il se fait en Égypte. Mais grande, très grande différence. Pour Isis, l'Africaine épouse, c'était l'exaltation du bonheur mutuel et l'adoration de l'époux. Pour la Baltis syrienne, c'était l'ivresse aveugle, la tendresse indistincte qui, dans l'hôte étranger, le passant, l'homme enfin, accueillait l'ami inconnu. Adonis le voulait. Celle qui se gardait et qui fermait sa porte devait, en pénitence, faire tomber ses cheveux, pour longtemps, rase et laide, rester sans oser se montrer. Baltis Astarté semblait faire l'envers de Moloch. Ce terrible jaloux, pour garder ses comptoirs par l'effroi, immolait des hommes. Elle, au contraire, ouvrait toutes grandes les portes aux passants, disait « Pauvre étranger !» Moloch, le grand vendeur, le grand mutilateur partout pour les sérails, faisait des Adonis. Astarté, au contraire, adora l'enfant mutilé. Opposition frappante se semble. Point du tout. L'amour impur, c'est de la mort encore. Moloch, dans son horreur, était moins dangereux que l'abîme profond d'Astarté. La pitié amoureuse, la mollesse et les pleurs, la contagieuse douceur des Adonis amenèrent dans le monde le grand fait, terrible et mortel, l'évanouissement de la force mâle. Voyez ce progrès de faiblesse. En Égypte, Osiris meurt, il est vrai, pas tout à fait pourtant. Tout mort qu'il est, il engendre Harpocrate. En Syrie, le mâle n'est plus qu'un faible adolescent qui ne fait que mourir. Point de paternité, point d'enfant d'Adonis. Il est l'enfant lui-même. Mais sous un autre nom, il tombe bien plus bas en Phrygie. La Syrienne, sous forme languissante, au fond véhémente et terrible, n'est pas femme à se résigner. Elle est pleine d'audace et d'initiative, en mal, en bien. Les Jaël et les Déborah, Judith, Esther, sauve le peuple. Athalie, Jézabel, son roi. Il en advient de même à la fameuse colombe d'Ascalon, la Sémiramis, qui s'envola de Syrie à l'Euphrate. La déesse poisson, Derceto, gonflée du dieu désir, avait enfanté un matin l'étrange créature. D'esclave reine, lascive et guerrière, elle se débarrasse d'un mari qui l'adore, se fait épouser par Ninus, le grand roi d'Orient, lui prend la vie, le trône. Elle détrône aussi Ninive et fait à son image Babylone aux 100 portes, aux gigantesques murs, gouffre monstrueux de plaisir qui ouvre à tous l'asile de son impure fraternité. Babel était déjà la tour, l'observatoire célèbre des mages chaldéens. Elle était le marché où chaque année, du Haut-Euphrate, les vins d'Arménie descendaient, apportant les fêtes et la joie. Elle était tout ouverte. L'Asie craignait les murs, l'obscurité des villes. Le libre chef de caravane croyait, s'il s'engageait dans une ville fermée, qu'il y serait perdu, volé, vendu, tué peut-être. Lorsque la ruine de Ninive chassa son peuple à Babylone, ce peuple industriel attira à tout prix les marchands et les rassura. On suivit à la lettre l'avis que Balaam, prophète de l'âne ou Belphégor, donnait dans la Genèse, de séduire par la femme. Les fières dames de Babylone s'assirent aux portes, invitèrent l'étranger. Quoi de plus rassurant? Quel que fût ce passant, d'Orient, d'Occident, de toute race, marchand, chef de tribu, sauvage ismaélite, un fugitif peut-être, un misérable esclave, la grande dame, en pompe et sur son trône d'or, recevait de lui la petite monnaie qu'il lui jetait sur les genoux. La Vénus de Babel imposait ce devoir d'humilité, d'égalité. Il semblait l'acheter. Tout mariage était un achat, et l'épouser, pour ainsi dire, à lui de commander. Pure cérémonie symbolique. Mais quel orgueil pour lui d'épouser Babylone, la grande reine d'Orient, la fille des géants, qu'il a tant rêvé au désert. Il se sentait aimé, adopté et babylonien, acquis lui-même, acheté pour toujours. C'était le piège de cette vie. L'étranger, dès le seuil, perdait ses souvenirs. Avec cette petite monnaie donnée à la belle dame souriante, il se trouvait avoir jeté dans sa main le passé, la patrie, la famille, les dieux paternels. Cela allait au point que lui-même, en retour, il bâtissait, augmentait Babylone, travaillait ardemment aux murs de cette nouvelle patrie. Ils montèrent par enchantement à 200 pieds de haut. Les mages, par un coup de génie, avaient prévu cela, tracé d'avance astronomiquement, au nombre des jours de l'année, une ville de 365 stades de tours. Le soleil cuit les briques, l'asphalte regorgeait, tout fut bâti d'un coup, avec une vraie furie d'amour, par les amis, amants de la reine Sémiramis, autrement dit Babylone. Les murs, vraies chaînes de montagnes, où 4 chars passaient de front, en un moment dominèrent la contrée. Les rois voisins étaient furieux et menaçaient. Ils s'arrêtèrent en voyant Babylone déjà inattaquable. Ce fut pour 200 ou 300 ans l'asile universel, l'arche des arts d'Asie qui les enveloppa, les garda des déluges qui menaçaient à l'horizon. Grand spectacle de voir tant de peuples devenus les enfants de cette mère étrange qui, sous sa vaste robe, accueillait, abritait tout homme, noir ou blanc, libre, esclave. Les esclaves eux-mêmes avaient leur fête où leur maître les servait. Les captifs y étaient si bien qu'ils y faisaient fortune, on le voit par les Juifs. Dans ce grand pêle-mêle, on se croyait volontiers frères. Les femmes se mariaient l'une l'autre, les laides avec l'argent des belles. Les malades, avec confiance, se mettaient sur les places et consultaient la foule amie. Babylone, achetant des soldats mercenaires du Nord, fut conquérante. Ses mages, ou nabis, Nabucodonosor, effrayèrent un moment le monde, enlevant, amenant sur l'Euphrate des peuples entiers, comme Israël, Juda. Grandeur qui n'était pas la force. Des masses hétérogènes ne pouvaient qu'augmenter la discordance de Babel, la confusion d'esprit, de langue, qui est restée proverbiale. Babel et Babylone semblent des noms imitatifs, comme barbare en grec, pour dire le bégayeur, le barbouilleur qui mêle plusieurs langues. Ces mélanges malsains pour l'esprit y faisaient le vertige. Témoin le grand Nabi qui tomba à la bête, Daniel. Les femmes plus sobres et plus froides, que nul excès n'épuise, de plus en plus se trouvèrent les seuls mâles. Babylone elle-même était femme. Les reines mages, surtout Nitocris, qui régnèrent avec gloire, firent en vain des travaux immenses de défense pour arrêter, retarder l'ennemi. Le Perse n'en tint compte, entra et se crut maître, mais c'est lui qui fut pris. La vieille ville voluptueuse l'embrassa, l'enlaça, lui fit un lit si doux qu'il y mollit, fondit. Le génie mage, obscur, profond, impur et de naissance, et d'art et de calcul, et qui avait mangé le haut fruit de l'arbre du mal, pervertit à fond ses vainqueurs. Les mères reines prirent l'amour et l'audace de Sémiramis, les rois l'orgueil, la chute aussi des Nabucodonosor. Les mages firent deux idoles. L'idole roi, gardée tout autour par cette comédie de terreur qu'on voit au monument, l'aigle taureau à face d'homme, l'autre l'idole mère, la grande mère, Myrrhe Milita, Vénus Amour, en qui ils engloutirent tous les dieux d'Orient et qu'ils mirent hardiment entre Hormuz, Ahriman, comme un médiateur qui domina la Perse même. Vrai vainqueur de l'Asie, volupté Milita trôna au sommet de Babel, en son luxurieux colosse, lascivement bercé sur des lions amoureux. Entre ces bêtes était le roi des rois, qu'elle tenait énervé et doux, par un sérail babylonien où chaque année 500 jeunes créatures, un troupeau d'enfants gras, Daniel, était incessamment versé. Milita, au bas de Babel, et sous les basses voûtes où jadis on nourrit les reptiles sacrés, avait ses jeunes abattis, galants, rosés, fardés, faux garçons, fausses filles, de voix fausses et mignardes, qu'on prêtait pour argent, et qui, victimes honteuses, dans leur immolation, voyaient le ciel ouvert et disaient la bonne aventure. Immonde religion qui s'étend, Milita gagne à l'Occident, en Lydie, en Phrygie, au grand marché d'esclaves, aux fabriques de nuques, elle est un Aïtis Attis, elle est la grande Ma aux riches saints que la Grèce appela si belle. En ce pays brouillé, vrai chaos de Phrygie, où l'on mêle tout sans comprendre, par une légende monstrueuse, Attis devient le petit mâle, l'Adonis de cette grosse Cybèle. On copie la passion d'Adonis, la semaine sainte de Byblos. Toujours le bambino mutilé, perdu, retrouvé, lamenté par les femmes. La mise en scène plus pathétique encore, barbare, grotesque et très choquante. On promenait non pas un petit simulacre de bois, mais une viande sanglante qu'on donnait pour la tête d'Adonis ou sa relique obscène. L'horreur était au comble. Alors l'arbre d'Attis, un pin comme à Byblos, apparaissait, arbre enchanté, gémissant et plein de soupirs. La foule échevelée priait et l'évoquait. Enfin, de larmes ouvertes, jaillissait un enfant. Attis ressuscitait, ravissant, adoré, dans sa grâce équivoque, garçon, fille à la fois, rêve incertain d'amour. Ce drame du vertige et du rêve fut du plus grand rapport. Les prêtres de l'Asie mineure, comme nos princes ecclésiastiques d'Italie, triplement commerçants, exploitaient à la fois la piété, l'amour et la bonne aventure. Ils tiraient des attises un fructueux courtage. Ils s'enrichirent, devinrent rois, papes. Ils poussaient leur succès, envoyaient partout des attises ambulants, mendiants, quêteurs avec un âne, devins, rusés marchands de prières et d'expiations. Vrais capucins antiques, demi-eunuques et par là rassurants, ils vendaient à la fois le plaisir et la pénitence. Comme nos flagellants, ces drôles, impunément exhibés sous le fouet, attendrissaient les cœurs sensibles. Ils saignaient et les femmes déliraient, s'évanouissaient. Voilà les conquérants du monde. Dans leur attis s'abbasse, s'engloutira l'Antiquité.